France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, je vais être honnête avec vous, c'est une émission un peu spéciale parce que l'invité de ce soir, ça fait des mois que son nom revient ici. À chaque fois qu'on demande à un artiste « Qu'est-ce qui t'excite en ce moment ? Qu'est-ce que tu écoutes en boucle ? Qui va compter demain ?» Il y a un nom qui revient, toujours le même, et ce nom, c'est Ino Casablanca. Oui, alors ce soir, je l'avoue, je suis un peu plus content que d'habitude parce que j'ai passé une immense partie de l'année 2025 à écouter sa musique. Mais rassurez-vous, je suis un fan, mais je suis un fan sérieux, donc je vais tâcher de faire mon travail et d'animer cette émission comme il se doit. Ino Casablanca, c'est un artiste à un moment très précis de sa carrière, celui où tout est encore en train de se jouer, mais où tout le monde a déjà compris qu'il se passe quelque chose. Il dit le temps d'un morceau, qu'il se sent comme Ademo à l'époque du Monde Chico. On n'a pas envie de lui mettre trop de pression sur les épaules, mais il y a peut-être un peu de ça. Sa musique circule, ses morceaux s'imposent, la scène s'élargit et surtout, son nom est déjà sur toutes les bouches, même avant d'être sur toutes les affiches. Ce soir, on va prendre le temps de comprendre pourquoi, d'où ça vient, comment ça se construit et jusqu'où ça peut aller. Ino Casablanca est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Mais tu crois que je suis fou, moi ? Mais tu crois que je suis un baiser, moi, en fait ? Mais tu crois que je suis bête, moi ? Mais toi, t'as craqué, mon frère. T'es joli et bon et tout, mais parfois t'es bête, toi, en fait. Toi, tu fais tes grands gestes, toi. Mais c'est que de la gueule, mon frère. Donc à 25, je suis le rookie, j'ai à peine bougé le petit.
Comment ça va, Ino ?
Ça va très bien, et toi ? Sacré intro, pas mal.
Fallait aujourd'hui, il fallait que je sorte faut que je sorte un bon match là.
Ça fait plaisir, merci beaucoup.
Ça c'est un extrait donc du morceau Dima Rave qui est extrait de ton dernier projet en date, Extasia. Ce que je disais dans l'introduction, c'est vrai que c'est un moment particulier pour toi, je pense que tu le sens. T'as sûrement vu le changement entre avant et la sortie d'Extasia. Comment tu vis ce moment un peu particulier, j'imagine, où j'imagine que tu dois recevoir plein de DM d'artistes, ce moment-là où on veut collaborer avec toi, où on parle de plus en plus de toi. Ouais. Comment tu vis ça ?
Mais franchement c'est très bizarre, j'arrive pas trop à. C'est même pas bon, réalisé, je sais même pas si c'est le bon terme, mais de me rendre compte de qu'est-ce que chaque chose représente.
Ouais.
Pourtant, c'est un truc que moi j'ai toujours suivi la musique, même d'un point de vue, que ce soit musical ou même industriel et tout, quoi. Je sais ce que remplir telle salle représente, faire tel chiffre ou tel truc, je sais, ou être dans tel média, etc. Ouais. Je sais ce que ça représente, mais dès qu'il s'agit de moi, je trouve ça un peu démesuré, ou en même temps, je trouve qu'en même temps, c'est pas tant. C'est dur à juger.
Quand je dis c'est pas tant, c'est-à-dire que tu penses que ça pourrait même être encore plus ?
Ouais, plus ou moins, mais c'est, au-delà de moi, ce que j'aimerais ou quoi, c'est juste arriver à me juger dans mon positionnement, dans le game, où est-ce que j'en suis. Je sais pas, c'est très particulier. En plus, les époques évoluent tellement. Je pense que la musique aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était pas la même chose. Donc, ce que j'ai vécu, moi, ce que j'ai vu de moi de l'extérieur, les succès des autres.
C'est pas forcément ce que tu vas vivre aujourd'hui.
Exactement, c'est pas du tout les mêmes contextes, c'est pas les mêmes façons d'être exposé. C'est plein de choses qui ont changé, donc c'est très dur pour moi de juger. Et en même temps, je suis très content, forcément. Je suis très content que la musique soit reçue comme ça. Mais je le vis d'une manière assez froide. J'essaie de. Je sais pas, j'arrive pas à mon compte simplement. Je pense que j'arrive pas à mon compte et limite tant mieux.
Je pense, sûrement. Ouais. Je parlais un peu de pression sur les épaules. Est-ce que c'est le cas ? Tu sais, quand tout le monde parle de toi comme soit le rookie de l'année, ou là c'est plus vraiment le cas, là c'est l'artiste de l'année, ou qu'est-ce qu'il va faire en 2026 Est-ce qu'il y a une pression, voire même une peur ?
En vrai, moi je me mets une pression. Je l'avais déjà même avant de faire. Lorsque je faisais Extasia, après Tamara, je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire ? Et là, c'est la même question que je me pose. C'est que... Mais ça a une pression parce que les gens, ils parlent pour toi, ils sont en mode, toi, c'est bon, c'est sûr. Et tout. Que ce soit aujourd'hui les médias, mais à la base,
même potes, des gens qui croient en toi.
Exactement, ouais, les potos, ils sont en mode, ah, c'est bon et tout. Mais je dis, mais il faut que j'aille au studio voir
si
je fais un bon
morceau. Les morceaux, ils sont pas faits.
Ouais, exactement. Et du coup, je sais pas, ça met une sorte de. Tu deviens une promesse et tu peux pas. Moi, j'ai pas envie de décevoir les gens, j'ai pas envie de me décevoir non plus.
Il faut honorer la promesse.
Évidemment, il faut honorer. Et moi, en plus, je prétends. En plus, je joue ma gueule, je dis nanani dans mes textes et tout. Donc, faut l'assumer. Et ça met une petite pression. Et cette pression-là, tu la ressens au studio. Moi, c'est derrière le micro que j'ai ce truc de ok, faut assurer, etc. Tu vois.
Est-ce que, tu sais, parce que on va rentrer après un peu dans le détail de ta musique, mais il y a quelque chose qu'on dit beaucoup quand on parle de ta musique, c'est l'hybridation, tu sais, mais c'est même un terme qu'on emploie beaucoup quand on parle de la pop au sens large aujourd'hui, on y reviendra un peu après dans l'émission, mais bientôt c'est le Super Bowl, Bad Bunny, t'as un bon exemple de ça, Rosalia, bon, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup en ce moment, et toi, t'es un exemple de ça en France, comme dans un autre registre, une Théodora, peut l'être aussi, c'est très dur de vous catégoriser, ça, cette espèce d'hybridation justement, d'envie de mélanger, ça devient d'où ? Est-ce que t'as toujours eu ça ? Parce que toi, il y a aussi quelque chose, c'est que tu performes et tu produis aussi, t'es aussi un producteur, tu fais de la musique, tu composes une grande partie de ta musique. Est-ce que t'as toujours eu cette envie de mélanger des choses qui a priori sont pas censées être mélangées?
Non, j'ai pas toujours eu l'envie. Genre, j'avais pas la maturité de voir les choses comme ça. Lorsque je commençais à faire de la musique, j'étais très caricatural dans tout ce que je faisais. Je pense que comme n'importe quel débutant en général, lorsque tu commences une discipline, t'es assez stéréotypé et tout.
Ouais.
Donc non, c'est pas venu direct.
Tu faisais un rap plus académique au début.
Ouais, voilà, ouais. Je faisais tout. Les prods étaient beaucoup plus académiques. Ouais, c'est comme ça que t'apprends. J'essayais de j'imitais plein de rappeurs. Un jour j'étais tel, un jour j'étais un autre, tu vois. Donc tu sais, tu te cherches. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'époque qu'il veut. Je pense que c'est ce que je dis souvent. Je pense que là, t'as cité aussi l'exemple de Théodora. Je pense que il y aura de plus en plus d'artistes comme ça, parce que je pense que notre génération, elle a grandi dans un mélange.
Ouais.
On est juste, ouais, notre musique est juste le fruit de notre époque, je pense, je trouve. Et en vrai, c'est pas quelque chose que tu réfléchis. C'est,
oui,
d'un coup,
c'est en fait, vous, en fait, c'est en
ouais,
toi.
Ouais, exactement. Je pense que c'est un truc très sincère. Et justement, c'est le fait de pas se mettre de barrière, forcément, il y a des choses que les gens, dans leur crâne, pour eux, ça, c'est censé pas, c'est pas ouais. censé être ensemble. Ben, justement, chaque personnalité est différente et forcément, on a tous nos contradictions d'un point de vue sociologique, tu vois.
Ouais, ouais.
Sauf qu'elles coexistent bien et ça fait pas bizarre. Une fois que. Genre, sur papier, c'est bizarre.
Ouais.
Mais une fois que ça existe, c'est tout de suite évident.
Et parfois, ces mélanges-là, ça donne des morceaux assez extraordinaires, je dois le dire, comme ce morceau, Kitley.
Celui qui parle mal, je lui fais des pleurs, vu qu'on peut pas compter sur les pleurs. Kitley, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes tresses aura du sol. Je serai là dans tous les cas, ma rêve. Kitley, non.
Quelle chanson! Vraiment, c'est ma chanson de 2025. Ouais, hein, vraiment. Et je crois que je suis pas le seul. Est-ce que tu as senti, alors c'est pas forcément le morceau qui est le plus streamé sur le projet, mais j'ai l'impression que c'est un peu une chanson un peu favorite pour certains.
Ouais,
est-ce que tu as senti qu'elle a touché peut-être plus que d'autres, en tout cas, ce morceau-là? Parce qu'il y a aussi, il y a un moment, ça part en compas. Enfin, c'est un morceau qui, là aussi, est vraiment une hybridation pure.
Ouais, de ouf. Non, ce morceau, lorsque je l'ai fait, ça a été très vite. Un de mes préférés, c'était une évidence pour moi lorsque je le trouve très bien fait, très bien construit et tout. Et je vois le public au fur et à mesure, plus le temps passe, plus les gens se le prennent.
Ouais.
Rien qu'en concert, entre le premier concert et
tu vois
le dernier,
différence.
Voilà la différence. Et je pense que, j'espère qu'il va continuer comme ça et que les gens vont de plus en plus le prendre. Mais ce morceau, je l'aime beaucoup. Et je trouve vraiment que c'est un morceau qui est très bien fait.
Est-ce que c'est ton préféré du projet? Est-ce que t'as un préféré?
Ouais, j'avais des préférés, mais...
Maintenant, c'est le public qui choisit, non. Vu que maintenant tu commences à tourner avec, je pense que c'est plus toi qui décides.
Ouais, mais Kitley, franchement, il n'a pas beaucoup bougé. Bissap aussi, je l'aime beaucoup. C'est mes deux... C'est les deux que j'ai aimés depuis le début. En tout cas, même artistiquement, ça se rapproche beaucoup de ce que...
Ce vers quoi tu veux aller.
Ouais, okay. C'est ça.
Okay.
Et du coup, j'ai une petite affection pour ce morceau. Ouais.
Alors moi, la première personne qui m'apparaît de toi, d'ailleurs elle est ici, même si elle se montre pas, c'est le chroniqueur sale, qui est quelqu'un qui est connu notamment dans le milieu du rap, qui est un producteur, qui aussi qui a une chaîne YouTube, enfin qui donnait beaucoup d'avis, parfois très méchants sur le rap dans le passé, mais qui a une oreille en tout cas, qui est vraiment quelqu'un qui a une oreille. Et c'est le premier qui m'a parlé de toi. Est-ce qu'il y a aussi qui peut paraître étonnant parce que la musique que lui notamment produit ou même défend, c'est un rap qui pour le coup est assez différent de celui que toi tu fais. C'est quoi votre relation? Comment ça s'est fait entre vous?
Ça s'est fait lorsque il faisait des lives sur YouTube, justement, ou pour écouter de la musique, découvrir de la musique, des talents, des artistes. Et lorsque j'étais en train de faire Tamara, j'avais deux morceaux.
Tamara, c'est le premier projet que tu as sorti l'année dernière.
Avant Stasia, exactement.
Il y a eu deux projets l'année dernière.
Exactement. Et j'avais deux morceaux. Et j'avais l'impression d'avoir quelque chose entre les mains.
Okay.
C'est là où il y a eu le déclic de cette identité et tout.
Ouais.
Et autour de moi, en vrai, j'avais pas forcément de gens leur avis musical est vraiment que je peux prendre vraiment au sérieux, très au sérieux. C'est vraiment c'est peu de personnes.
C'est des potes, quoi.
C'est des potos. Donc ils aiment pas. Et du coup, bon, je me suis dit, vas-y, je vais envoyer là-bas. Je sais qu'on va me dire une certaine vérité. Et j'envoie, et il a bien aimé. Et on est resté en contact depuis. Il m'a dit, on voit tout ce que t'as. Et moi, j'avais que ça. Très cool. J'ai fini le projet deux mois après ou trois mois après. Et je l'ai envoyé. Il a bien aimé. Et depuis, on travaille ensemble.
Okay.
C'est
une rencontre sur Internet, quoi. C'est vraiment toi qui fais découvrir ta musique.
C'est ça. Et après, on s'est capté. Et on s'est très vite compris sur la vision musicale. C'est quelque chose qui n'était pas évident, vu le profil que j'ai. S'il n'y a pas de visuel, on ne connaît pas en tant que personne. Cette musique-là, tu dis, qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Et en plus, et c'est très peu de personnes qui peuvent miser sur des gens où il n'y a, pas d'artiste, où il n'y a pas de buzz, ou juste purement sur la proposition artistique. Ça force le respect, parce que c'est pas, je pense que tu le sais, c'est pas quelque chose dans l'industrie qui est commun du tout. C'est pas quelque chose qui est commun.
Absolument.
Et même aussi, musicalement, c'est vrai qu'il a, il a une certaine, ce qu'il a montré en tant que producteur, une certaine facette, mais c'est quelqu'un qui a...
Ouais, qui a une autre culture aussi,
Une autre culture, c'est sa culture, elle est, elle est grande et très large, et je pense que, pour ceux qui savent ce qu'il aime, c'est pas du tout choquant que, qu'il soit à propos de ce que je fais.
De ce que tu peux faire.
Ouais,
tu parlais là du Tamara, qui était le projet sorti en début d'année 2022, de 2025, pardon, 2022 c'était l'autre projet, on en parlera un peu après. Mais là, je propose qu'on écoute un morceau extrait d'Extasia, un morceau que tu viens de citer, c'est Bissap du 20e, qui a aussi d'ailleurs un très joli clip. T'es à propos des clips aussi.
Bien sûr,
on sent
sûr.
Que tu, c'est quelque chose qui est important pour toi.
Bien sûr, c'est important.
Bon, on s'écoute ça, on en reparle juste après. Bissap du 20e de Ino Casamloca, présent sur le projet Extasia. Sap du 20e morceau de Ino Casablanca, notre invité ce soir dans La Régulière.
France Inter. Mehdi Maizi à La
régulière.
Inno, avant de continuer évidemment à parler de toi, de ta musique, j'aimerais bien qu'on parle de tes influences. Je te pose quelques questions, tu me dis s'il y a des morceaux ou des artistes qui t'évoquent ça. Ouais. J'aimerais commencer avec peut-être la musique qui passait à la maison. Est-ce qu'il y a un morceau, un ou une artiste qui passait vraiment à la maison quand t'étais... Je crois que ton père a joué notamment dans ta culture musicale.
Ouais, carrément, carrément. Mon père écoutait vraiment beaucoup de la musique du Moyen-Orient... plus du Moyen-Orient que libanaise, justement, que maghrébine.
Okay.
Donc vraiment de la musique libanaise, égyptienne. Donc ouais, Fayrouz, c'était une artiste qui mettait partout. Y a un morceau, c'est Alouninas, il s'appelle, qu'il aimait beaucoup. Donc il y avait, à la maison, c'est ça.
Okay.
À la maison, c'est ces musiques-là, Om Kultoum, c'est les divas de là-bas.
Donc moins de la musique marocaine, mais plutôt de la musique, effectivement, ce que tu
veux. Ouais. Même, genre, le raï, c'est pas à travers mon père que j'ai découvert. Okay. J'ai découvert, je sais même pas comment.
En explorant, peut-être.
Ouais, comme ça, quand j'étais au Maroc, c'est la musique que t'entends dans les rues, dans les mariages, dans les maisons. Mais c'est, mon père, par exemple, était pas...
un amateur de raï.
Ouais, pas de ouf, c'est moi qui m'a fait découvrir, mais tout le reste, ouais. Donc ouais, c'est ça, là, ce qu'il y avait à la maison, c'était ça, et sinon, c'est moi qui traîne sur YouTube, tu vois.
Quand t'es petit... T'aimes la musique de ton père ou tu la rejettes et tu l'aimes plutôt après?
Non, je l'aime, mais c'est pas un truc que... Comment expliquer? C'est pas un genre de truc que tu vas dire à l'école que t'écoutes.
Évidemment, tu voilà, peux pas avoir les mêmes goûts que tes parents.
Voilà, c'est un peu la honte, tu vois, d'écouter ça quand t'es petit. Mais c'est quelque chose que j'aimais, ouais. Si, j'aimais. Je rejetais pas, par contre, je le rejetais dans ma musique.
Okay.
Dans ma musique, c'est quelque chose que je faisais pas, j'y pensais même pas. Mais mon père, quand il m'entendait faire des prods, il passait vite fait dans la chambre. Il me disait, ouais, là, on t'entend pas, toi. Il me disait ça.
Okay.
On te sent pas, toi. Parce que lui, il sait ce qu'il m'a fait écouter. Mais moi, je suis en mode, mais c'est ringard de mettre... Tu sais, moi, je dirais que je me dis, mais ça va être cliché de mettre de la musique soit hispanique ou arabe.
Ouais, ouais.
Genre, je vais mettre une vieille flûte dans la prod, là, et ça va être cliché, c'est nul à chaque fois. Parce que les exemples que j'avais, c'était à peu près ça, tu vois.
Ouais.
Lorsqu'on essayait de moderniser quelque chose, c'était toujours fait avec mauvais goût et tout. Et ouais, donc ouais, c'est ça qu'il y avait à la maison.
Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est qu'on parle d'hybridation, mais toi-même, t'es aussi quelqu'un qui est entre plusieurs endroits. C'est-à-dire que t'es né en Espagne, on a parlé du Maroc, tu vis en France, donc tout ça, c'est aussi en toi depuis le début, en fait, quelque part. Ça fait partie de ton ADN.
Ouais, quand même.
C'est où la maison aujourd'hui?
Aïe. Et ça, y a pas vraiment.
Y a pas?
Y a pas vraiment, je vis nulle part, c'est n'importe quoi. Je vis n'importe quoi.
Et t'aimes bien ça?
Je sais même pas si. C'est ni. Je pense que c'est comme. Comme les autres, ceux qui se ressentent quelque part chez eux, c'est ni bien ni mauvais, c'est juste une vérité qui est là. Et moi, je le vis comme un truc. Je ressens pas un manque, en tout cas, de ah, j'aimerais bien avoir une maison, un chez moi.
Ouais.
Positivement, j'ai envie de le voir plutôt. Je me sens chez moi partout.
Ouais. Je me sens peut-être libre aussi.
Ouais, de ouf. J'ai pas d'attache géographique ou quoi. J'ai toujours grandi un peu comme ça. Ouais.
Le premier morceau de rap qui te choque.
Je trouve
artiste, ça peut être un artiste.
Artiste, je pense que c'est. Quand j'étais petit, je pense que c'était Drake. Hein.
Ok.
Ouais. Je pense que c'était Drake, Lil Wayne.
Cette époque-là, l'époque Young Money, qui était leur label.
Avec Nicki et tout, ouais.
Ok.
Ouais,
incroyable ça.
Mais ouais.
Tu te rappelles de leur album, ils avaient fait un album avec Bedrock, le single.
Oui, mais putain.
C'est sorti en 2010, je crois. Ça.
Ah oui, mais là, j'étais vraiment type.
Moi,
je me prenais que les singles, en fait, tu vois. Parce que j'étais un gosse de YouTube, donc je voyais que les morceaux clippés. Et j'écoutais les albums, j'ai commencé à écouter ça très tard. Très tard, dans mon adolescence, j'ai commencé à écouter des albums. Donc mon morceau m'avait choqué, moi, c'était Love Me.
Love Me, exceptionnel.
Lil Wayne,
Future Drake.
Ouais, exceptionnel.
Trop méconnu presque.
Ah ouais,
c'est un tube.
Là, récemment, ça a repris. Les gens, les tipeux, ils le connaissent parce que je sais pas, je crois qu'il y a un truc sur TikTok.
Quand les petits connaissent, c'est qu'il y a une trend TikTok.
Exactement,
c'est ça.
Et je me dis, mais qu'est-ce qui. Même ça repasse en club et tout parfois.
Ok.
Mais là, quand ce morceau était sorti, putain, mais je comprenais pas.
Ouais,
mais Lollipop aussi, Lollipop en vrai.
Bien sûr.
Ça, c'est mes premiers souvenirs de rap sans que je sache que c'est du rap. Parce qu'en plus.
C'est de la musique qui passe à la radio.
Exactement. En plus, c'était le rap auto-tuné. Donc, moi, dans ma tête, ils chantent ces mecs. Tu vois,
bien sûr.
En vrai, je vois pas la diff.
Ce qui est le cas en vrai.
Ce qui est le cas en soi.
Ce qui est le cas aussi. Tu vois,
ça, c'est du chant en soi, mais les flows, ils restent découpés, etc. Donc, ouais, ça, c'est mon premier souvenir rap américain. C'est le rap américain, en tout cas. Ouais.
Tu parles de Love Me qui repassera en club. Pour toi, parce que t'as une morceau aussi qui, une musique pardon, qui peut aussi être festive.
Ouais.
Le morceau ultime pour faire la fête.
Putain, mais il y en a plein. Après, moi, lorsque j'ai commencé à aller en boîte et tout. C'était du coup vers mes 18 ans, donc c'est 2018 et tout.
Ouais.
Et à l'époque, nous, c'était. Il y avait eu cet été, on a eu Air Max. Tu vois, on a eu même
Air Max et Rimka Nino.
Voilà. Et je crois que même, c'est pas le même été, mais il y avait eu Papers de Zola et Nino.
En fait, il y avait Nino. Non, si.
Tu vois, il y avait Nino partout.
Pour moi, c'est 2018. Ouais. C'est l'année où Nino ouais. est incontournable et il donne des hits à tout le monde.
Exactement. Il y a les bonnes sa mère aussi. Donc, exactement. En vrai, c'est cette période-là. Mais même, il y avait la Madrina. Donc, vraiment, c'était ouais. cette époque-là. C'est ça qui passait en club. En tout cas, les clubs.
Ouais,
tu vois, dans le sud de la France, c'est ça qui passe en club. Et. Donc en vrai, moi, cette époque-là, moi, je, en tant que jeune de fou, c'était la musique qui passait. Donc,
ouais, ouais.
Et en plus, je vais plus trop aujourd'hui. Ouais, j'associais ça à ça.
Okay.
C'est ça à ça. Et sinon, moi, j'aime bien 50, je trouve qu'il fait des morceaux club qui sont vraiment bien quand même.
Okay.
Mais ouais, cette époque-là que j'ai pas
pris en club.
Ouais, 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 de ouf.
Un morceau pour marcher solo dans la nuit. Être pensif, comme ça, réfléchir à ta vie.
PNL, ça marche très bien, forcément.
Ouais, bah oui.
PNL, ça marche très bien. Tu peux mettre La Misère est si belle, tranquille. Ou alors, sur Paname, du coup, si tu marches sur Paname.
Ok, très bien.
Ça te met direct dans l'ambiance.
Ouais. La Misère est si belle, une belle manière de clôturer un album.
Ouais, j'espère qu'ils vont pas revenir, moi, perso. J'espère qu'ils vont rester sur ça.
Ils font ce qu'ils veulent, bien sûr.
Oui, évidemment.
Mais je suis d'accord avec toi.
Ouais,
en fait,
ouais.
je trouve... Ça, c'est un vrai débat hein, dans le rap.
Mais de ouf.
C'est tellement parfait, ce qu'ils nous ont donné,
ouais.
que j'ai pas envie qu'un album juste bien
sorte
et vienne. Après, s'ils ont besoin de le faire, évidemment, t'es artiste, j'imagine que...
Mais c'est vraiment trop risqué. Pour moi, il faut qu'ils fassent comme Daft Punk.
Ouais.
Ils finissent sur un truc vraiment propre.
Ouais.
Très bien. C'est très dur. Après, s'ils sont inspirés, ils sont inspirés. Mais je trouve que c'est très difficile de revenir après.
De toper ça, ouais.
Parce que vraiment, déjà, rien qu'après Dans la Légende, faire deux frères, c'était compliqué.
C'est fou.
C'était compliqué.
Déjà, après le Montico, faire Dans la
Légende.
Ouais,
déjà, en vrai. Mais coup sur coup, c'est terrible.
Bon, je pense qu'on écoute juste quelques secondes de La Misère est si belle parce que c'est trop bien.
Je suis triste comme d'hab. Faut que c'est pas la peine de réfléchir. La mélodie me fait du bien. Je pense plus à Gucci pour me vêtir. Parfois, je m'habille en gueule, je bats les couilles. À qui, à quoi, pourquoi faire? Les années passent comme la galère. Je rêve toujours de cette maison sur la mer. Y'a eu des bons moments, mais beaucoup moins que ce noir qui s'installe dans mon
La Misère si belle, donc de PNL, sorti en 2019. Et c'est le morceau choisi par Ino pour marcher solo dans la nuit. Et on est avec Ino jusque 23h. Il y a un morceau que j'aime beaucoup aussi sur Extasia, c'est le morceau Blicky.
Ouais, 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 bébé, ça vient d'où? Ouais, bébé, ça dit quoi? J'arrive, je suis en bas de chez toi. Je pourrais être avec des tasses qui s'embrassent, mais j'ai choisi toi. J'ai des tales, même sans job. J'ai des tales, même sans job. Je pourrais être avec des tasses qui s'embrassent, mais j'ai choisi.
Est-ce que toi, tu m'as choisi?
J'ai le choix, donc je choisis.
On vient de parler un peu de club rapidement, mais toi tu fais de la musique, je l'ai dit, pour aussi, enfin pas que, mais sur lequel on peut faire la fête, sur lequel on peut danser, vraiment. Ça devient d'où ce truc-là en fait, cette envie aussi de faire danser les gens, de les embarquer comme ça?
Je sais pas du tout, j'ai l'impression que... En plus je suis pas du tout un gars de la fête ou quoi, c'est pas...
Ok, moi je me demandais si t'étais justement quelqu'un qui faisait la fête.
Non, vraiment, sur ces 5 dernières années, je suis allé en boîte 6 fois,
okay.
vois, vraiment, c'est très rare. Mais je kiffe quand même l'énergie, tu vois. Et je trouve aussi que les artistes qui vont loin, etc., forcément, en général, ils savent tout faire. Et moi, j'ai besoin de me prouver que je sais faire tout ça.
Okay.
Tu vois, un artiste qui est juste introspectif, cool. Un artiste qui fait juste de la musique club, cool. Un artiste qui fait des hits, cool.
T'as envie
quelqu'un
d'être...
qui fait tout ça.
Ouais.
Je pense que c'est l'une des manières d'être grand dans la musique, tu vois. C'est les artistes qui sont complets.
Il y a des artistes comme ça, du coup, qui savent tout faire, qui ont pu t'inspirer.
Bien sûr. En vrai, Hamza, il est comme ça. Hamza, il est comme
c'est
ça.
Vrai.
Que ce soit... Il a ce côté trap, il a ce côté R&B, tu vois, il a ce côté kicker que les gens ignorent un peu.
Bien sûr.
Donc en vrai, il a ce côté un peu méloman aussi.
Ouais, ouais.
Et pour autant, ça le rend pas incohérent.
Et il peut faire des choses populaires tout en étant aussi assez pointu.
Exactement.
Parfois,
exactement. Dans son esthétique, il est assez pointu. Lui, c'est un exemple, par exemple, de en quoi c'est possible.
Tu dis qu'il a un côté kicker parfois que les gens ne relève pas assez.
Bah oui.
Je t'ai vu aussi dire ça de toi. Tu disais que les gens ne relèvent pas assez ton écriture.
Ouais, de ouf.
Parce que tu dis des choses, effectivement. Il y a même parfois des phrases marrantes dans ta musique. Il y a de l'humour. En fait, il y a beaucoup d'humour aussi dans ta musique. Des traits d'esprit. Ça te dérange parce que tu mets aussi beaucoup de travail et d'application dans l'écriture.
J'essaye. Franchement, j'essaye. Après, je prétends pas être un écrivain de fou, loin de là, mais je trouve pas non plus que c'est le truc qu'on doit ignorer, tu vois.
Ouais, ok.
Je fais un certain effort. Moi, je dis des trucs qui me touchent, moi, personnellement. Et des gens m'en font part, mais je trouve qu'en général, c'est pas de ça dont on parle.
Ouais, ouais.
Et en même temps, je pense que je l'ai pas. Je pense qu'encore une fois, J'ai déjà dit aussi, mais je pense que la musique, elle est tellement peut-être l'interpelle déjà trop pour que
oui,
pour qu'on puisse s'attarder sur ça.
Et je trouve que tu ne soulignes pas l'écriture. Il y a ouais, parfois il y a une manière. Tu rappes sur un piano voix,
Ça ressort. Bon,
évidemment. Toi, je pense il y a beaucoup de choses dans ta musique. Donc je pense qu'effectivement c'est presque un élément parmi d'autres parce qu'on sent qu'il y a du travail aussi sur la production, sur plein de références que tu mets quoi.
Ouais, totalement. Je pense que c'est à la réécoute qu'on se rend compte. Ouais, c'est à la réécoute qu'on se rend compte que peut-être que il a dit ça, il parle de ça quand même et tout. Et aussi c'est parce que j'allais dire que j'ai pas fait de morceaux à thème. Il y a des morceaux à thème, comme Kitley, c'est un morceau à thème, tu vois. Mais les gens le remarquent pas, c'est un truc de ouf. Je comprends pas. Alors que pour moi, c'est explicite de fou,
Mais pour moi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi, parfois même, je pense, le, entre guillemets, le drame des artistes, parfois, qui font de la musique dansante, c'est qu'en fait, parfois, on n'écoute pas ce qui est dit. Parce qu'il y a un truc qui est festif, on danse, ça nous... Même parfois, il y a même des morceaux, tu sais, qui sont extrêmement populaires, qui racontent parfois des choses tristes.
Ouais, bien sûr.
Billie Jean de Michael Jackson, c'est pas un morceau extrêmement, nice, mais...
Scandaleux.
Mais exactement, ça pense au scandale. Mais les gens ne le savent même pas ou ne l'écoutent même pas. Donc je pense qu'il y a ça, tu sais, avec les morceaux qui embarquent comme ça les gens, il n'y a peut-être pas cette réflexion qui est faite. On l'a dit, tu avais sorti un premier projet en 2022, qui s'appelle... Demna, et ça ressemblait à ça.
J'ai jamais vu mon père dire je t'aime à ma mère. Jamais vu ma mère dire je t'aime à mon père. J'ai vu tes chattes qui en valent pas la peine. Je suis dans ta bite, comme si c'était la mienne. J'ai vu celle que j'aimais dans les bras d'un autre. Je l'ai vu revenir quand elle voulait ma peau. J'ai vu des contrats qu'il fallait pas signer.
On en parlait en antenne. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2022 et 2025 où je le répète, t'as sorti deux projets. Est-ce que t'as mis la musique de côté? Je pense pas. Est-ce que t'as beaucoup travaillé? T'as beaucoup réfléchi? T'es passé dans la salle du temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ta musique était cool. Moi, j'ai réécouté le projet.
Ouais.
Le projet est cool,
mais
il est différent de ce que tu fais. On sent que quelque chose s'est passé en trois ans.
Je pense que j'ai un peu plus pris confiance en moi. C'est la confiance en moi. J'ai arrêté de faire des compromis aussi. En fait, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai énormément réfléchi. Énormément réfléchi. Ma vie personnelle à ce moment-là était un peu compliquée. Mon cadre de vie était un peu compliqué. Donc ça aidait pas non plus.
Okay.
C'est plein de choses comme ça en vrai qui t'embrouillent l'esprit. Artistiquement, t'es pas focalisé. Moi, je suis pas le genre de gars. Genre l'artiste torturé, quand il est torturé, c'est là qu'il est trop fort. Moi, je suis pas ce gars-là.
Okay.
Moi, il faut que je me sente bien.
Okay.
Faut que même pour prendre le recul sur ce que j'ai vécu, c'est quand une fois que je me sens bien, que j'arrive à mieux le raconter.
Okay.
Il me faut un certain recul sur les choses. Et là, je m'imprègne du truc. Mais toute cette période-là était assez compliquée. Du coup, artistiquement, c'était impossible pour moi d'avoir du recul. J'avais pas confiance en moi. Même les compétences, en vrai, je m'améliorais encore. Donc ouais, c'était une grande réflexion. Ouais, franchement, beaucoup de réflexion. En tant que personne, j'essayais de... J'avais beaucoup de choses à travailler chez moi. Donc en vrai, c'est des bails comme ça qui sont encore même moi dans ma tête. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Puis il y a eu un déclic à un moment où je me suis dit que sa mère, je vais essayer de... J'ai arrêté de calculer plein de choses. Est-ce que le regard des autres sur moi, des choses comme ça, je me suis dit que sa mère, je m'en fous de ce que j'en pense. Moi, je vais essayer d'oublier au moins lorsque je suis au studio et j'y vais à fond, tu vois.
Et juste sur cette histoire de, même en tant que personne, on sent aussi que ça te travaille, ça que
ouais, quand même.
T'as envie d'être une bonne personne, tout en parlant parfois des travers que tu peux avoir comme tout le monde.
Ouais.
Et on sent aussi, je crois que tu l'as vu dans une interview pour Mosaïque, si je ne dis pas de bêtises, que t'avais pas aussi envie de devenir une mauvaise personne, que l'industrie te change. On sent que t'es... Ça, c'est quelque chose qui te... Pas qui t'obsède, mais en tout cas qui t'interpelle. Le fait de rester droit dans tes bottes, en fait.
Carrément, parce que, en vrai, lorsque tu grandis dans certains milieux, tu vois ce que c'est la vie normale et la vraie vie, les choses qui comptent, etc. Ouais. Et en fait, tu peux très, très vite te faire vampiriser par ces trucs cool, en fait, de... même, par exemple, très précisément, le côté parisien, les soirées parisiennes, je sais pas quoi, nanani, comment tu t'habilles, le truc très superficiel, et tu peux te retrouver à t'attacher à ça. Et moi, la question que je me pose, c'est que je vois... Enfin, on a toujours entendu des gens changer. Ouais, lui, il a changé depuis ci. Et personne ne s'en met en question. Et les artistes sont en mode, non, mais c'est vous. Moi, j'ai pas changé, vous qui avez changé. Comme par hasard, quand même, les gars. Ils sont tous d'accord pour dire, t'as changé, cousin, frère, c'est peut-être t'as changé.
Il y a peut-être un truc qui a changé,
Et moi, j'ai envie d'éviter ça. Surtout si c'est pas dans le bon, si c'est dans le mauvais. Moi, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. Et aussi, c'est que je sais ce que c'est. Enfin, j'ai des potes qui ont une vie genre classique. Et j'ai longtemps été là-dedans. Et je sais ce qui compte. C'est d'avoir un toit, c'est de pouvoir dormir, d'être en bonne santé, etc. Et les autres, le reste, c'est très cool. Je vais tout faire pour l'avoir. Mais je suis pas prêt à tout. Tu vois, j'ai pas sacrifié ma personne, mes valeurs, etc. Pour des choses que je trouve moi futiles. Moi, l'important pour moi, c'est qu'à la fin de la journée, je peux me regarder dans la glace et j'ai pas honte de moi. Et comme ça, tu dors tranquille. Donc voilà, tout ce qui est, voilà, des choses comme ça qui peuvent t'emmener à la triche, à la trahison, à être ingrat. C'est ces choses-là qui me font peur.
Ok.
Voilà, c'est ces choses-là qui me font peur. Et j'ai pas envie de ça. Vraiment, ma hantise.
Je comprends. Alors sur Tamara, il y a un morceau que j'adore. Qui s'appelle Degré Fahrenheit, que je trouve exceptionnel, et qui est aussi autre chose. Ouais. C'est une autre facette de tes compétences, et je propose qu'on écoute ce morceau. Tout de suite, Degré Fahrenheit, donc de Ino Casablanca, présent sur le projet Tamara, sorti lui aussi l'année dernière, en 2025.
Baby, je peux pas te sauver, faut pas me saouler, je dois remplir mon bac. Baby, je peux pas te sauver, faut pas me saouler, je dois remplir mon bac.
Je dois remplir mon bac, je dois remplir mon bac.
Baby, je peux te défouler, pas te désoler, tu vas me rendre mon verre. Là je change de fille. Bitch, sur moi elle ne fait que danser. Parle français sans me parler français. So fresh, so clean, sans dépenser. Lady, lady. Non, non, j'ai changé désormais. Je me suis promis de plus calculer ton tir. Je me suis promis d'éviter tes formes. Je ne veux même pas voir ce qui se cache en dessous. D'éviter, c'est éviter les problèmes. Chaque mot, chaque fils te déforme. Mais si me détourne, tu testes de dire rien que pour moi. Baby, je peux pas te sauver, faut pas me saouler, je dois remplir mon bec.
Je dois remplir mon bec, les...
Baby, je peux me défouler, pas te désoler, tu vas me rendre mon verre.
Fahrenheit, donc morceau de notre invité du soir, Ino Casablanca, morceau présent sur le projet Tamara.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Ino, on en a un petit peu parlé, on a parlé d'hybridation tout à l'heure, du fait qu'aujourd'hui il y a plein d'artistes qui mélangent plein de genres. Je voulais qu'on en écoute quelques-uns pour illustrer ça, et puis peut-être que si tu voudras réagir, mais c'est vrai que ce qu'on appelle encore la pop aujourd'hui, c'est plus vraiment un genre, c'est plutôt un carrefour en fait. On retrouve du rap, de la musique club, des musiques traditionnelles, des musiques de club, des musiques très douces aussi. Et on va essayer de le montrer en musique. On peut commencer avec un morceau qui ne ressemble pas à ce qu'on appelait de la pop il y a quelques années. T'as reconnu?
C'est un Omri de Oum Kalthoum.
Exactement, c'est ce morceau de Oum Kalthoum, effectivement. Et pendant longtemps, finalement, ces musiques-là, elles étaient un peu considérées comme des musiques à part. Ouais. Parce que je pense que la pop avait vraiment un regard parfois très occidental, voire même américain, sur ce qu'était la pop. Et aujourd'hui, ben, elles sont au cœur de la pop, en fait, puisqu'elles sont intégrées dans plusieurs morceaux, dans des samples, dans des influences. Ouais. Et on l'a un peu mentionné, mais en Espagne, on a un exemple parfait, c'est Rosalia, qui mélange flamenco, pop, expérimental, même rap. Elle ne choisit pas. Elle assemble.
Malamente.
pareil en France, chez nous, avec Théodora qui passe d'un genre à l'autre sans se poser de questions.
C'est à cause mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolis, baby, aimerait sa bille. Voici Soukali, je me lève, je suis déjà pète. Je suis pété Soukali, pollen, je m'en.
On pourrait donner énormément d'exemples. Pendant longtemps, le club, la musique club, était un peu un genre à part, en fait. C'était pas quelque chose de pop. Et aujourd'hui, c'est plutôt un genre qui va structurer la pop dans la répétition, dans la manière dont ça va faire bouger les corps, justement. Et on peut parler de Jamie XX, par exemple, avec ce tube. Ça fait étonnant comme de la musique radicale, en fait, et avec des vrais partis pris esthétiques, peuvent devenir extrêmement populaires aujourd'hui. Évidemment, le rap, bah, t'en es un exemple, hein, est pas étranger à ça. Je pense qu'on peut parler d'un artiste que tu as cité d'ailleurs, c'est Drake, qui est aussi un artiste, mine de rien,
mais oui,
extrêmement hybride, même s'il est peut-être pas forcément vu comme ça, mais c'est un artiste avec qui tout bascule, puisqu'il fait des tubes, mais aussi mélange énormément de genres musicaux différents, comme en 2016, si je ne dis pas de bêtises, sur ce morceau.
Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting.
Ça c'est One Dance, alors évidemment c'est pas Drake qui a inventé le dancehall, mais il a quand même, je pense, fait partie, à un moment participé à le rendre plus populaire, en tout cas plus pop, à un moment avec ce morceau, avec Controla aussi. C'est vrai qu'on est vraiment dans ce moment-là, en fait. Est-ce que pour toi, il y a... Quelle est la pop star la plus influente aujourd'hui? En tout cas, que
aujourd'hui, là
beaucoup. Ouais.
Putain. Je pense que... bon, il est pas dans ce contexte-là, mais The Weeknd, à un moment donné, il a quand même ramené ce truc un peu rétro que tout le monde a suivi après.
Très années 80.
Ouais, donc il a eu une influence de fou pour moi.
Ouais.
À un moment donné, ça a été lui, pendant, je pense, de 2020 jusqu'à 2023. C'était n'importe quoi, quand même.
Ouais.
C'est compliqué.
T'écoutes quelqu'un comme Bad Bunny, par exemple?
Bien sûr, de ouf. Bad Bunny, très. Mais tu vois, c'est vraiment. J'ai l'impression, en France, en tout cas, pour pas dire en Europe, son dernier album, j'ai l'impression que les gens en France ont enfin remarqué.
Exactement.
Qu'il s'était...
Et c'est que, putain, il a vraiment marché
de fou depuis. Mais ouais, cet artiste, il est presque numéro un depuis.
Exactement.
Depuis longtemps, tu vois. Et la preuve, justement, je crois que les gens en France, un des morceaux que j'en connaissais, c'était Mia avec Drake,
tout à fait.
Bien sûr, j'écoute Bad Bunny.
Pendant longtemps, je vais pas te mentir, c'était le morceau que je connaissais de Bad Bunny.
Et après ça, il en a eu.
Exactement.
Il en avait tout le temps. En plus, il est très productif et tout.
Ouais, tout à fait.
Il a toujours été là. Je pense que. Mais c'est très compliqué aujourd'hui.
Mais en fait, c'est ça. C'est un vrai sujet parce que j'en sais
rien. Il y en a beaucoup, en fait.
Il y en a beaucoup et en même temps, il y en a moins. C'est-à-dire qu'il y a moins de popstars qui mettent tout le monde d'accord, mais il y a plus de superstars, en fait.
De ouf.
Là où avant, c'était peut-être, t'en avais 5.
Ouais. Aujourd'hui, tu peux aligner Lady Gaga,
Taylor Swift et puis de l'autre côté.
Même Doja Cat, tu vois.
Tout à fait.
Sabrina Carpenter aujourd'hui aussi. Dua Lipa. Enfin, il y en a plein. En vrai, il y en a plein qui cartonnent de fou. Et chacun a son esthétique. Le pire, c'est que chacun est.
Exactement.
À son goût, tu vois. Là où avant, je pense à moi quand j'étais petit en tout cas, les pop stars faisaient toutes la même musique. Tu vois, Rihanna, Kesha et Katy Perry sortaient le même album.
C'est vrai.
Ils sortaient
au moins les mêmes tubes en tout cas.
Ah oui, même les albums. Franchement, ils étaient pareil, c'était la même pochette.
Des recettes.
Ouais. Et aujourd'hui, ça a changé. Chaque artiste a son identité et ça tue.
Bon. Ino Casablanca est avec nous jusque 23h. Alors, on vient de mentionner Bad Bunny qui va performer au Super Bowl dans quelques temps. Toi, pas encore le Super Bowl, mais il y a quelques concerts de prévus, notamment il y a la Cigale en février, il y a deux dates. Je crois que tu en as annoncé une qui s'est remplie très très vite, donc tu en as annoncé une deuxième. On parlait au début de la discussion sur le fait que voilà, tu sais ce que ça représente, le fait de remplir de Cigale aussi vite, etc. Quel rapport t'as avec la scène? Dans quelle mesure c'est quelque chose d'important? Parce que tu me disais que tu n'as pas forcément beaucoup fait la fête. En revanche, la scène, t'en fais. Et t'as une musique aussi. On attend de toi quelque chose sur scène par rapport à ta musique. Comment t'appréhendes cet exercice-là?
Moi, je kiffe de fou. J'aime énormément la scène.
Ouais.
Je kiffe. Et j'ai découvert ça l'année dernière, vraiment en 2025. J'ai découvert ça.
T'avais jamais vraiment fait de scène avant?
Jamais. Jamais. Moi, rapper, chanter devant les gens, c'était impossible.
T'étais timide avant? T'étais
Ouais, je suis toujours, en vrai. Il y a des choses, je prends sur moi.
Okay.
Je prends sur moi et j'essaye de kiffer, d'oublier. Enfin, d'oublier, même pas. Je me fais un peu violence. Je me dis, vas-y, kiffe, tu vois, on s'en fout. Les gens ils sont là parce qu'ils t'aiment bien, tu vois. Mm. Mais ouais, j'ai un truc un peu de... C'est de la pudeur, plutôt de la timidité. Non, je kiffe la scène. Et c'est quelque chose de très important pour moi parce que c'est un moment de communion avec les gens. J'avais aussi du mal au tout début, à l'idée de la scène parce que dans l'idée que je me faisais, c'est ce truc de l'artiste qui est là, dans sa posture d'artiste, et les gens ils sont là, ils crient ton nom, et ça franchement je...
Ok.
Dans cette idée-là, je l'aime pas, moi je préfère plutôt l'idée de... d'être ensemble, tu vois, qu'on ressente pas trop cette distance entre l'artiste et son public lorsqu'on est sur scène, tu vois.
Mais c'est drôle parce que aussi tu dis, tu l'as clairement dit dans plusieurs interviews, que t'avais aussi envie d'être une superstar.
Bien sûr, mais ça
va avec ça.
Mais superstar parce que du coup les gens ils imaginent superstar à leur manière.
Ouais.
Bon, peut-être que je vais avoir ma façon à moi d'être
ouais.
superstar. Moi c'est vraiment juste, c'est dans l'impact musical, l'impact culturel, mon statut dans l'industrie, c'est le fait d'avoir des gros morceaux, c'est ça que ça veut dire.
Ouais, ouais,
et okay. que je sois identifié en tant que identité artistique, tu vois, c'est ça mon but lorsque je dis superstar, c'est ça, c'est de mettre d'accord plein de gens.
C'est pas être spécialement connu ou aimé en
non,
tout cas. Ouais.
Non, c'est juste d'être reconnu par ma musique et de mettre d'accord pas mal de gens. À une certaine, genre une bonne partie, on commence à se dire ah putain quand même. Tu vois, et c'est ça mon but, et j'en suis convaincu que j'ai le profil. On dirait un politicien. je suis convaincu que j'ai la musique et le profil pour ça, et ouais. C'est le temps qui nous montrera. Tu vois.
On vote pour toi en tout cas.
Merci.
En 2027, par pitié, présente-toi en 2027.
Putain,
par pitié.
Je pourrais gagner.
Je sais pas. Je pourrais... pas te mentir, je suis pas sûr. Malheureusement, je suis pas sûr. Sur Dimarave, tu sais, je parlais de la citation, la référence à la démo, ouais. Et juste un peu après, tu cites Jacques Brel. Oui. Sur le même morceau. Oui. Et ça, on n'en a pas parlé dans toutes tes influences, etc. Est-ce que la chanson française, comme ça,
ouais,
c'est aussi
ouais.
des choses qui t'ont marqué?
Ouais, mais je suis un footix un peu en chanson française, dans le sens
ouais,
où.
Ouais, t'es pas un expert.
Je connais vraiment les gros morceaux.
Ouais, ouais.
Jacques Brel, je connais vraiment ses gros morceaux.
Okay.
Tu vois, je connais Ne me quitte pas, ces gens-là. Voilà,
c'est... Ouais, Amsterdam, sur le
même pas. Même pas, okay. pas, tu vois, okay. même pas. Aznavour, je connais pareil, les gros. Okay. Je crois que le moins connu que je connais, c'est Mourir d'aimer. Et je crois qu'il est un peu connu, je crois. Mais ouais, non, mais je connais vraiment les gros morceaux un peu de tout le monde, même jusqu'à Alain Barrière et tout. Je connais des trucs, mais pour Jacques Brel, c'était surtout cette interview.
Oui, je vois ce que tu veux. Quand tu parles de la moussage, la transpiration, c'est un truc qui est très visuel.
C'est un truc, ce qu'il dit par rapport au talent et tout, et c'est une réflexion que j'avais avant même dans une interview où j'étais au lycée. Et parce qu'en gros, autour de moi, tout le monde me disait, ouais, mais toi, en gros, ils utilisaient le talent comme une excuse, en mode, mais toi, c'est facile, t'as du talent.
Par rapport à quoi? Par rapport à la partie artistique par rapport à l'école?
Ouais, okay, par rapport à la musique. Et même, ouais, c'est vrai que l'école aussi, mais. Et j'ai toujours cette question, en mode, et Vald avait repris ce truc-là aussi, où il parlait de que la vie, elle serait injuste si. Il y a des gens, ils naissent avec du talent et d'autres non. Ils sont condamnés et c'est foutu. Et je sais pas si c'est une excuse pour les gens qui trouvent qu'eux, ils n'ont pas de talent, du coup, ils mettent l'excuse sur le talent. Où est-ce que nous, on a du talent et on n'a pas l'humilité d'accepter que ça dépend pas que de nous et que en fait, non, en fait, c'est le travail. Non. Je sais pas à quel point le talent tel qu'on le définit, il existe. Tu vois, moi, je pense pas qu'il existe comme on le définit, comme un don de, je sais pas quoi, et que.
Tu penses pas qu'il y a des prédispositions, en tout cas peut-être pour certains. Bon, au sport, par exemple, évidemment,
oui,
qu'il y a
parce
beaucoup
que
de travail.
C'est beaucoup plus explicite, c'est physique, mais là, tu sais, ça se passe dans le cerveau.
Ouais.
Je sais pas. C'est la question que je me pose.
Et effectivement, Jacques Brel paraît ça dans cette fameuse interview.
Il dit qu'il n'existe. Lui, il trouve que non.
Il n'y a pas de talent. Tout à fait.
Il trouve qu'il n'y a pas de talent. Je sais pas.
Donc ça a résonné en tout cas en toi.
Ouais.
Bon, je propose qu'on écoute quelqu'un qu'on vient de citer, mais qu'on va écouter. Non pas Jacques Brel, mais on aurait pu. Mais c'est Bad Bunny avec son dernier morceau, Bad Bunny.
Claro, ma, para brujas, cambio por 100. Tú te montas mi carro y por eso un Mercedes Benz. Como tú, ninguna se ve, ninguna se ve. Ay, lo mío, ninguna se ve.
Bad Bunny, donc, qui animera, enfin, qui performera lors du prochain Super Bowl. Et d'ailleurs, une émission lui sera consacrée que je co-animerai avec Camille Diao le 8 février sur France Inter. Sera diffusée de 21h à 23h.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Ino, c'est l'heure des recommandations.
Okay.
Et tu m'as fait deux recommandations.
Mm-hmm.
Et notamment un film que j'adore.
Oui. Je le kiffe aussi.
C'est Will Hunting, ouais, film de Gus Van Sant avec Matt Damon, Ben Affleck. Écrit, d'ailleurs, le scénario était écrit par Matt Damon et,
ouais,
et Ben Affleck.
Deux, ouais.
Pourquoi ce film qui est devenu un classique avec Robin Williams aussi, j'ai oublié Robin Williams qui joue le psychologue.
Ouais. Ce film, je sais pas quoi te dire, mais il est. J'ai découvert tard aussi. Hein.
Okay.
J'ai découvert peut-être il y a 3-4 ans.
Ok.
Putain, mais je sais pas pourquoi il m'a touché de fou. Enfin, je sais pourquoi il m'a touché. Tout est touchant dans ce film.
Ouais, ouais. Est-ce que juste avant, tu sais, on parlait de talent, de gens qui disaient que t'es talentueux, et il y a ça dans le film avec Will Hunting.
Ouais, c'est vrai.
Il y a ce moment où tout le monde dit à Will, donc je joue par Matt Damon, t'as du talent, t'es pas censé rester avec
nous.
Il y a une scène
nous.
Que je trouve extrêmement touchante, où il parle avec Ben Affleck
sur
et son pote.
Sur la voiture, là, ouais.
Il dit, si t'es encore là avec nous dans, ouais, sur la voiture, dans 5, 10 ans, en fait, je te casse la gueule, parce que t'as un destin, tu vois. Alors, évidemment, c'est pas la même histoire. Mais est-ce qu'il y a une forme d'identification qu'a pu se faire? Bon, après, lui, c'est un surdoué, qui est un génie des maths, enfin, de tout, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un truc comme ça d'identification qu'a pu se faire avec le personnage de Will?
Il y a ce truc de, le gars, c'est un bon gars, mais il a des soucis de violence.
Ouais.
Il est très violent. Moi, quand j'étais tout jeune, j'avais des soucis de violence aussi. Je me battais tout le temps, etc. Donc, je me suis senti concerné. Et puis, même son parcours psychologique, je me suis senti concerné. Et sa relation avec le psychologue, elle est très touchante.
Ouais,
parce que c'est enfin quelqu'un qui lui veut vraiment du bien. Et lui, qui est toujours plutôt... Il est plutôt du genre à se soucier des autres, même s'il a des bons amis et tout. Lui, il est très responsable de sa vie. Il travaille, il se débrouille. Mais et il est dans un déni total. Dans l'amour qu'il a pour tu vois, sa copine, à un moment, il est dans un déni de fou, il fuit, etc.
Parce qu'il n'est pas habitué à ça, je crois. Il y a un truc aussi où
il n'est pas habitué à
cet amour.
Ouais, exactement. Et du coup, ça lui fait peur, ça le braque. Et ouais, il est très touchant, ce film, de manière. Il est très agréable à regarder. Moi, c'est dès que je ne sais pas quoi regarder, je regarde ça.
Je te jure, c'est. Et franchement, pareil. Genre, ça fait vraiment partie des films que je peux revoir en boucle en boucle, malgré le fait qu'ils sont quand même assez touchants, assez émouvants. Il y a un truc vraiment de. C'est un film réconfort, un peu.
Ouais, exactement. C'est un film doudou. Et même la VF. Elle est nulle un peu, mais elle est bien. Les blagues, il est pas très drôle, le film.
Ouais, non, c'est,
et c'est pas marrant du tout, les blagues qu'ils font. Je sais pas si c'est fait exprès. Je me pose la question, est-ce qu'ils ont fait exprès d'avoir ce côté un peu embarrassant? Mais je sais pas, il y a une ambiance qui se dégage du film, et je kiffe.
Donc tu iras manger des caramels avec ta copine un jour. Parce que c'est ça, quand tu lui dis on va boire un café, on pourrait manger des caramels.
Des caramels,
toujours trouvé cette réplique géniale, moi.
Mais oui,
et la pourquoi boire un café?
Ouais, de ouf, pas toujours café.
Exactement, tu sais, aller manger des caramels.
De ouf.
Et ton autre recommandation, c'est une artiste d'ailleurs, ça tombe bien, parce que hier on recevait Magla, la streameuse, youtubeuse, et on a joué ce morceau, un morceau de Judeline.
Qué pena que yo vaya a hacer lo que yo quiera.
No puedo hacer nada porque el tiempo va a pasar. Voy a echar de menos el brillo de tu vida. Qué mala, no se puede controlar. Yo sigo la vida donde me quiera llevar.
Moi, j'avoue que j'ai découvert cet artiste quand elle était programmée justement dans cette émission. Comment tu as découvert cet artiste qui est espagnol, hein, si je ne dis pas de bêtises?
Ouais, l'espagnol, j'ai découvert sur YouTube.
Ok.
Ce qui est rare.
Tu digues sur YouTube?
Ouais, je digue sur YouTube.
Ok.
Évidemment, je digue sur YouTube, je digue sur SoundCloud. Je me suis pas détaché de ça.
Ok.
Mais YouTube, c'est compliqué, mais elle, je l'ai eu dans mes recommandations. C'était le morceau Canijo. J'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi, il y a 2 ans, je crois.
Ok.
J'ai kiffé de fou, en fait, sa voix, j'aime beaucoup sa voix. C'est très bien produit, mélodiquement, ça se voit, elle se prend la tête sur les mélodies, sur ses flows. Dans la forme, c'est incroyable, je trouve.
Est-ce
dans la forme, ça tue.
Tu sais, cette histoire de d'international. Si on a aussi l'impression maintenant, à tort ou à raison, mais que c'est peut-être plus facile de traverser les frontières que d'en repasser, ouais. De s'exporter. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête, ça? De faire voyager ta musique dans des pays qui ne parlent pas le français?
Je trouve que... Bah, c'est vrai que j'ai pas ça dans la tête du tout.
Okay.
Ce serait un honneur, un plaisir, vraiment, pour de vrai, mais... C'est vrai que j'ai pas ça en tête. Non, j'ai pas ça en tête. Je trouve que la francophonie est déjà assez grande.
Ouais,
on a de la chance d'avoir vraiment ce truc-là avec la langue française, de pouvoir déjà toucher sans s'exporter
à énormément de pays.
Ouais, déjà pouvoir toucher énormément de pays. Mais sinon, ouais, j'aimerais trop. Franchement, mais ça, c'est. On n'est pas beaucoup.
Beaucoup, quoi. Peut-être que vous serez de plus en plus nombreux demain, en fait.
Ouais, c'est
j'ai
vrai.
Le sentiment que peut-être que c'est.
C'est possible.
La musique va peut-être plus s'exporter demain.
Mais s'exporter pour de vrai, où il y a genre vraiment les gens, ils te connaissent. C'est pas genre un morceau ou trois morceaux que les gens connaissent. Ça serait incroyable.
Est-ce que toi, t'écoutes du rap allemand, du rap italien
Non,
pas trop.
J'écoute vraiment rap francophone.
Ok. Américain encore un peu ou moins si.
Ouais, quand même. Quand même, il y a des gens que je kiffe. En vrai, Kendrick, tu vois, comme tout le monde.
Ouais.
Baby Kim, bon, voilà.
Le cousin de voilà. Kendrick.
Travis toujours. Drake, je suis un peu lâché. Hein.
T'as le droit. Hein.
Drake, j'ai un peu lâché. Mais j'écoute ce qu'il fait.
Les anciens.
Ouais, évidemment. Ouais.
Okay.
Mais ouais, toujours rap américain, évidemment. Ouais.
Ino, c'est l'heure de la question qui tue. Elle est facile.
C'est vrai?
Enfin, elle est facile. Non, elle est pas facile. Elle est facile, encore une fois, dans la question que je vais te poser, elle est simple à poser. Mm-hmm. Elle est claire. Mmh. Il désert tout ça, voilà.
Ok.
Tu prends un seul album, un seul album avec toi. Tout genre confondu, tout pays confondu. C'est pas forcément du rap, parce que je sais que t'écoutes énormément de choses. Quel album tu prends? Il y a plus rien d'autre. Hein. Tu l'écoutes tous les jours.
C'est dur ça.
Il y a Will Hunting et il y a cet album.
En fait, parmi les albums que j'ai le plus écouté dans ma vie, il y a Ipséité de Damso.
Ok.
J'ai énormément écouté.
Ouais.
Je le connais sur le bout de mes doigts, vraiment.
2017, si je dis pas de bêtises.
2017, ouais. J'aime beaucoup cet album. Ouais, j'aime beaucoup cet album. Sinon, c'est Dans la Légende. Donc je pense, mais en fait, je crois que Dans la Légende, il est beaucoup plus réconfortant.
Je suis un peu d'accord avec toi.
Et en même temps,
il y a quand même y a une âme pour deux déjà.
Ouais.
Tu vois, tout seul sur une île déserte, faut se le farcir. Hein, je te le dis.
Ouais, non. En fait, Ipséité, c'est un peu un film d'action. Là où dans la Légende, on traverse beaucoup plus de trucs.
Ouais. C'est un film un peu plus contemplatif dans la Légende.
Et en même temps, il y a de la colère.
C'est vrai.
Donc, quand sur l'île déserte, j'arrive pas à attraper les cocos, j'ai envoyé peut-être Kratos, tu vois.
Ah, oh, waouh.
T'as capté?
Ça veut dire que l'album. Pardon, je t'ai coupé, mais l'album de PNL que tu écoutes le plus, c'est plutôt Dans la Légende, toi? Moi, c'est une autre question qui tue, là. Mais là, je suis d'accord, c'est que moi, c'est mon préféré, c'est Deux Frères. Mais dans La Légende, il y a un côté easy listening,
oui,
tu sais. Et puis surtout, tu skippes pas. Non pas que tu skippes les autres, mais il y a vraiment quelque chose dans l'enchaînement des morceaux qui est assez parfait, je trouve, sur ce disque.
Dans La Légende, il n'y a aucun morceau
où
tu te dis « Ah, j'ai pas envie de l'écouter aujourd'hui
». Ouais, c'est vrai.
Là où dans Deux Frères, il y en a quelques-uns.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Tu vois,
je suis d'accord avec toi.
Dans Le Montico, il y a aussi des morceaux que tu as envie d'écouter à certains moments. Là où dans La Légende, je crois que tu as envie de tous les écouter à n'importe quel moment.
C'est un.
Il n'y a pas un moment où bon, là j'ai pas envie.
Ouais.
Moi je pense que ça va être Dans La Légende.
Ok, dans La Légende donc de PNL. Donc c'est ça que tu prends sur
Dans
sur l'île déserte.
Ouais.
Ouais, ça va, c'est un.
Je prends les deux frérots.
Ça se tient.
Ouais.
Très bien. Ino, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
Mais de même.
Vraiment. On rappelle donc qu'il y a La Cigale en février, mais c'est complet de toute façon.
Elles sont complètes les deux.
C'est complet, voilà, c'est complet. Attendant autre chose, sur peut-être de la musique en tout cas, plein de choses j'imagine qui arriveront. Merci vraiment beaucoup d'avoir été là, c'était un plaisir de t'avoir. Et bien sûr, il y a les Victoires de la Musique aussi. C'est vrai, on n'a même pas parlé, c'est quand même assez important où tu es nommé. Voilà, vraiment merci beaucoup.
Ouais,
et si des gens nous écoutent, n'ont pas encore écouté ta musique, je sais pas ce qu'ils font.
Foncez les gars, essayez.
Essayez,
allez écouter, peut-être vous avez passé un bon moment.
Essayez, c'est l'adopter, on dirait un horrible slogan publicitaire. C'est terrifiant. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexa Lacour et Edouane Tella, réalisée par Gaëtan Coy. La programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Laurent Baudouin et Gaspard Guy Bourget. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, même heure, nous aurons Kersha qui sera là pour l'album 34.